Chapitre 36. Titio et Sila Nekros. Après plusieurs jours de gelée matinale et de brume continue jusqu'au soir, le soleil pénétrait enfin dans la clairière des partisans. Les nuages immobiles, comme punaisés au-dessus de la forêt, s'étaient enfin déchirés et avaient laissé la place à un ciel bleu inespéré. On approchait de midi. Les stalactites aux branches des sapins dégelaient en goutte à goutte, formant une flaque d'eau glacée, vite réchauffée. Valère et Constel avaient rejoint le camp des rebelles, pressés de raconter leurs exploits. Zizo, Akane et Sabi étaient rentrés quelques minutes avant eux, soucieux d'expliquer le refus de Luponera. Aucun des cinq, pourtant, n'avait pu placer le moindre mot. Zizo avait juste eu le temps de déposer près du feu éteint les provisions volées sur la route du retour, au marché du point du jour. Des carottes, des patates douces, un sac de bolets et un panier entier de pains spéciaux. Mano et Rick jetèrent à peine un regard à son butin. Agnel tenait un pigeon entre ses mains. Le pigeon de l'espion. Le message qu'il avait apporté les laissa sans voix pendant un long moment. Ogenor n'était pas le fils de Marilune. Lunella avait découvert la vérité et osé la révéler. La fille et le fils de Marilune et de Piersol, c'était elle et Solario. Sabi, après avoir croqué à pleines dents une miche de pain noir, fut la première à s'exprimer.
« C'est quand même dingue d'avoir été aussi aveugle. On cherchait des jumeaux. On n'a pas pensé à Lunella et Solario. »
Zizo attrapa lui aussi une tranche de pain complet avant de continuer. D'autant plus qu'on savait qu'Ogenor nous manipulait. Tout s'explique. À force de regarder des vidéos de Marilune, il s'est persuadé que lui seul pouvait être son fils. Il a fini par trouver son tombeau. Puis, grâce à la lettre dans le sarcophage, il a découvert le laboratoire Utopie. Quand il a compris qu'il n'était pas le vrai enfant de Marilune, il n'a pas pu le supporter. Alors il a réécrit l'histoire. Il a laissé une fausse lettre dans le sarcophage, le désignant comme l'héritier, puis il a modifié les fiches dans le dossier Néo du laboratoire Utopie, et le tour était joué. Constel fouillait dans son sac et essayait d'en sortir la chemise cartonnée jaune. « Je me souviens, » continua Zizo sans attendre qu'elle ouvre le dossier. « La fiche des parents de Lunella et Solario était étrange, différente des autres. C'est d'ailleurs à cause d'elle qu'on n'a pas trop voulu vous donner de détails sur vos parents. » D'après le commentaire de Marilune, ils étaient richissimes, mais soupçonnés d'avoir fait fortune dans la drogue et le crime. Elle avait noté « à surveiller » dans la page, souligné en rouge trois fois. Et c'était le seul nom pour lequel aucun pavillon n'était préconisé.
« Ce salaud s'est contenté d'échanger les fiches !»
explosa Sabi. Valère avait lui aussi vidé son sac. Il fit sauter l'élastique d'un dossier particulièrement épais étiqueté « Titio » et Sila Nekros, et distribua les feuilles photocopiées. Il s'agissait surtout de coupures de journaux relatant des faits divers sordides. Meurtres, enlèvements, attentats. D'après les journalistes, Titio Nekros était un criminel puissant, dangereux, ayant noué des relations de complicité avec les réseaux terroristes du monde entier. Un mafieux impitoyable et intouchable, défendu par les meilleurs avocats et protégé par des relations haut placées. Sabi lisait le récit d'un règlement de compte sanglant dans le port du Havre.
« Ce sont donc eux, les véritables parents de Nonor !»
fit-elle. Elle releva les yeux vers Valère.
« Bien vu, ma petite betterave !»
Elle se tourna immédiatement vers Zizo, comme pour lui signifier d'un battement de paupières innocent. « D'accord, j'ai promis, Valère est parvenu à entrer dans le laboratoire Utopie, mais la betterave n'est pas un fruit. » Contre toute attente, Constel adressa un grand sourire à la lolligirl. Le complexe d'infériorité de la journaliste, depuis son commando à l'Observatoire de Paris, avait laissé place à un sentiment de fierté que l'humour décapant de Sabi ne pouvait plus ébranler.
« bafouilla
Sabi, surprise.
Ce n'est pas bien difficile de deviner ce qui s'est passé. Mama Luna avait besoin d'argent, de beaucoup d'argent, pour financer son arche de Néo, le soleil de fer, l'aménagement du château, les vidéos et tout le reste. Du coup, quand papa et maman Nécros ont voulu eux aussi acheter un ticket d'entrée pour leur bébé, elle a dû hésiter, vu leur pédigré, mais finalement elle a accepté, parce que les Nécros étaient prêts à payer vraiment très cher et que, après tout, bébé Nonor n'était pas responsable des crimes de ses parents. Sabi s'arrêta pour choisir cette fois un morceau de pain spécial aux céréales. Zizo continuait de lire les coupures de journaux. Il fixa son attention sur un long article, une double page qui évoquait le calvaire de Sylla Nécros, hospitalisée d'urgence après une overdose. Le journaliste insistait sur l'addiction aux drogues dures de la célèbre milliardaire et concluait sur la dangerosité d'un tel comportement pour l'enfant que Sylla portait dans son ventre. Marie-Lune était forcément au courant, commenta Zizo en relevant les yeux. Elle se méfie, surveille le bébé. Au bout de quelques années, elle s'aperçoit qu'elle n'aurait pas dû le faire entrer. Les séquelles de la drogue sur le cerveau de l'enfant commencent à être visibles. Il est supérieurement intelligent, mais différent. Un gosse psychopathe, qui devait déjà prendre l'ascendant sur les autres enfants. Il risquait de foutre en l'air tout son projet de nouvelle évolution originelle. Mais que pouvait-elle faire? Elle n'allait pas le tuer. « Remarque, » dit Sabi. « Elle a peut-être essayé. C'est peut-être pour ça qu'il est handicapé. Mais Nonor s'accroche. Il sait que Mama Luna n'a plus que quelques années, quelques mois à vivre. Quand Mama Luna meurt, elle laisse derrière elle un loup dans la bergerie. »
« Un ver dans le fruit, » renchérit Zizo. « Un gamin à l'ambition démesurée, un nouvel apprenti sorcier. Il va entrer dans le laboratoire Utopie, découvrir avant tout le monde la vérité et tester la fusion de la pandorite, » conclut Agnel. « Le sang jaune qui va empoisonner les animaux. » Tous piochaient des fruits secs dans le pain sucré découpé par Mano.
« Sa frustration nourrit sa soif de pouvoir, » poursuivit Valère, « comme tous les dictateurs de l'histoire. Il ne fait confiance à personne, mais tisse une toile qui le rend invulnérable. »
Constel se pendit au cou de son historien.
« Sauf, mon chou, que maintenant, on connaît la vérité et on va lui faire une sacrée publicité. Isalis est peut-être la consul à l'instruction du peuple, mais question circulation de l'information, je me défends aussi. »
Eric s'était contenté de manger un croûton, sans toucher aux éclats de noix et de noisettes dans la mie des baguettes. Il était habitué à ne pas imprégner de son odeur les aliments partagés.
« Sans oublier le linceul des teinturiers, » ajouta-t-il. « Les drapeaux arc-en-ciel qui fleurissent partout dans Paris. »
À Cannes, avant que le butin de Zizo soit complètement pillé par les rebelles affamés, attrapa une boule de pain au seigle et la lança au capitaine Blanc.
« Distribuer des numéros spéciaux de la feuille de chou ou planter des drapeaux ne suffira pas, » tempéra le géant. « Tant que Génor disposera d'une armée impériale et que les soldats seront payés par la Banque du Nouveau Monde, personne ne pourra l'enverser. »
« Et tant qu'il restera 5 moulins sublimes capables de détruire le Nouveau Monde, » continua Valère, « nous resterons à la merci de sa folie. »
Il se leva avec solennité et confia le sublimateur à Aric.
« Un moulin pour que survivent les plus utiles. À toi de jouer. »
Zizo se leva à son tour.
« Et tant qu'il restera des prisonniers à délivrer au palais impérial, qu'importe si Eugénor me tend un piège, j'essaierai d'y entrer. »
« Dépêche-toi alors, »
murmura Mano.
« L'espion ne pourra pas tromper éternellement le grand cerf. »
Le gitan posa sa tête contre l'épaule d'Agnel et ferma les yeux. L'ado oiseau n'avait rien avalé du déjeuner, pas même une miette. Le pigeon tremblait toujours entre ses deux mains. Il déposa un baiser sur les lèvres de Mano, un autre sur le bec de l'oiseau, lui offrit quelques graines de sésame et le libéra.